Lundi 18 mai 1925.
Jake, dit doucement Reggie, si vous êtes réveillé, vous voudrez peut-être voir ça.
Bien sûr que je suis réveillé. Notre camp 6 est une mauvaise plaisanterie. La petite tente mid de 4,5 kg et 2 piquets est perchée sur une dalle si penchée que nous avons dû coller nos pieds contre le bloc rocheux, la retenant côté aval, et dormir dans un plan si incliné qu'on a presque l'impression d'être debout. Au moins, j'ai pris la précaution de poser une couverture de sol supplémentaire au moment où nous fixions la tente à la paroi de la montagne, si bien que le froid de ce monde extraterrestre n'est pas complètement remonté jusqu'à nous. J'ai dormi quelques minutes dans l'obscurité. J'ai aussi été vaguement conscient que, emmitouflés dans nos sacs de couchage, Reggie et moi nous serrions l'un contre l'autre, un peu comme deux passagers blottis sur l'impérial d'un bus anglais un jour d'hiver. Au moins, les vents ont été calmes durant la nuit. La crainte d'être balayé de ce perchoir ridicule m'aurait privé sinon de ces quelques instants de demi-sommeil. « Bien, » dis-je. Et je m'assois pour la terrible épreuve consistant à enfiler mes vêtements d'extérieur et mes bottes qui ont passé la nuit avec moi dans mon sac. Seule concession à l'hygiène, je mets ma dernière paire de sous-chaussettes en coton propre. Une aide psychologique, rien de plus. Je sors de la tente en rampant, côté un mont. J'ai l'impression d'émerger d'un tunnel de givre, ou plutôt de naître pour m'apercevoir que je suis sur la lune. La bande de soleil vient de descendre sur notre joyeux petit foyer à 8200 mètres d'altitude, et je me rends compte que le sifflement que j'entends depuis un moment ne vient pas de la neige, mais des réchauds à méta sur lesquels sont posées de toutes petites casseroles. Ils doivent fonctionner depuis un certain temps déjà, parce que Reggie, engoncé dans toutes ses couches de vêtements et assise sur son sac de couchage replié, ses bottes appuyées sur une arête dans une dalle pour éviter de glisser, a déjà rempli 3 thermos d'un liquide tiède. Je tente de me rappeler la température d'ébullition de l'eau à 8200 mètres. Est-ce 73 degrés Celsius ou 72? Bref, une température si basse que si on continue de grimper, j'ai l'impression que la neige fondra dans la casserole sans qu'on ait besoin d'allumer le réchaud. J'ai le vague souvenir d'avoir entendu George Finch dire que si nous, les humains, parvenions à aller dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, notre sang bouillerait dans nos veines et dans notre cerveau alors même que la température du côté du corps non éclairé par le soleil pourrait atteindre les moins 128 degrés Celsius. Évidemment, a ajouté Finch pour nous rassurer, nous prenions notre dessert dans le grand restaurant de Zurich, on n'aurait pas à s'inquiéter de l'ébullition du sang, puisque les poumons et le corps auraient déjà explosé comme ces pauvres créatures des profondeurs que nous sortons parfois de la mer. Ça m'avait coupé l'appétit. Je traîne mon sac de couchage sur la dalle pour m'asseoir à côté de Reggie. Au moment où je le fourre sous mes fesses, mes bottes glissent. Je n'ai pas mis mes crampons parce que mes doigts sont encore trop engourdis pour réussir à fixer toutes les attaches, et Reggie doit me retenir d'une main ferme avant que mes talons trouvent une cale dans le roc pour me stabiliser. Nous avons dû nous décaler légèrement sur la face nord pour dénicher cet emplacement pathétique. Nous n'avons pas vu de traces du camp 6 de Mallory et d'Irvin, mais peut-être nous ont-elles échappé au crépuscule, dans les longues ombres, le labyrinthe de pierre et la neige tourbillonnante. Et si, à cet endroit, à côté de l'arête nord et juste sous la bande jaune, la face ne semble pas trop abrupte, le toit d'ardoise de 35 ou 40 degrés de l'église que George Mallory a escaladé enfant serait une bonne comparaison. Un écart pourrait causer une chute de 1800 mètres jusqu'au glacier du Rongbuck Est.
Comment vous sentez-vous, Jake?
Voyant que Reggie n'utilise pas d'oxygène, je me félicite de ne pas avoir encore sorti ma bonbonne de la tente.
Super,
réponds-je d'une voix sourde. Si j'avais la tête pleine de coton au camp 5, ici au camp 6, elle est pratiquement vide, à moins de compter la douleur. Que le simple fait de penser ou de parler réveille.
Vous avez toussé toute la nuit,
dit Reggie. Je l'avais remarqué. Cette toux constante, causée, je suppose, par une incroyable sécheresse dans la gorge et une moindre efficacité des alvéoles pulmonaires à cette altitude, donne parfois l'impression qu'on va littéralement cracher ses organes internes.
C'est juste l'air froid, dis-je.
En réalité, j'ai la sensation d'avoir une chose solide coincée dans la gorge. Je chasse aussitôt cette pensée qui me donne la nausée. Reggie ouvre les bras.
Je me suis dit que vous voudriez voir le soleil se lever.
Oh. Oui. Merci. Mon Dieu, que c'est beau. Même mon cerveau ralenti et mon âme transie prennent vaguement conscience de cette beauté. Au bout d'un moment, la réalité de ce que je vois et la chaleur du soleil levant commencent à pénétrer l'amas de chair gelée, frissonnant, toussant et à moitié paralysé que je suis devenu. En cet instant, sans le moindre doute, Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort et moi sommes les humains le plus haut sur la planète. Je lève les yeux et tends mon cou douloureux vers l'Everest à gauche. Si proche, tellement inaccessible. À seulement 600 mètres au-dessus, 1,5 km sur l'arête, alors que le soleil bénit de ses rayons la roche rougeâtre du sommet. Les champs de neige étincelants de la pyramide sommitale, sous la dernière section verticale avant le sommet, semblent étrangers à ce monde et de nature quasi divine. Cette altitude n'est pas de notre monde. Nous, les humains, ne sommes pas faits ou pas encore assez évolués pour être là-haut, me dis-je, gagné par un léger sentiment de panique. En même temps, une autre pensée parfaitement contradictoire émerge dans mon esprit. Je suis fait pour être là. C'est le moment que j'ai attendu toute ma vie. Qu'a dit John Keats à propos de la capacité négative, le fait d'avoir deux idées opposées dans la tête sans chercher à les concilier? Je ne sais plus. Ce n'était peut-être pas Keats, plutôt Yeats ou Thomas Jefferson ou Edison. Attendez, à quoi je pensais déjà?
Tenez, buvez un peu,
me presse Reggie en me tendant une thermos.
Ce n'est pas chaud, mais ça contient de la caféine.
Le breuvage tiède manque me donner un haut le cœur, mais vomir sur Reggie ne serait pas la meilleure façon de la remercier de s'être levée avant l'aube, sur le toit du monde, pour me préparer mon café du matin. Par moments, Reggie se sert des jumelles pendues à son cou pour examiner les pentes en dessous.
Vous voyez quelque chose? Il y a juste assez de neige sur la face nord pour que chaque rocher ressemble à un corps.
Elle baisse les jumelles.
Non, rien à voir pour l'instant. Sauf ces deux êtres humains qui grimpent droit sur nous.
Quoi? Je lui emprunte ses jumelles. Il me faut une minute pour voir de quoi elle parle, même en suivant le doigt qu'elle tend. Je ne distingue que des points gris avançant lentement le long de l'arête, sur une toile de fond de roche sombre. C'est seulement quand ils passent devant une petite zone de neige que je les identifie.
Le diacre est en tête, dis-je. Avec Jean-Claude? Non, le deuxième homme de la cordée est trop grand pour être Jean-Claude. Ce doit être un Sherpa. Attendez. C'est pas Sang.
Elle me reprend les jumelles. Je vois son visage s'illuminer de plaisir, comme un point d'orgue à la perfection du monde qui nous entoure. Le ciel bleu qui se réchauffe, les méandres des immenses glaciers apparaissant entre les nuages en bas dans les vallées et les dizaines de sommets de plus de 6000 mètres éclairés l'un après l'autre par les rayons du soleil, comme une série de longs cierges blancs allumés par un invisible enfant de cœur. Les deux silhouettes mettent encore une demi-heure à nous rejoindre. Elles disparaissent de notre vue pendant la dernière partie de l'ascension, cachées dans le labyrinthe de goulottes qui commence à environ 300 mètres sous la bande jaune et se poursuit jusqu'à la ligne de l'arête au-dessus de nous. Entre-temps, Reggie et moi prenons un solide petit déjeuner. Des biscuits anglais, des carrés de chocolat, quelques cuillerées de macaroni à moitié décongelées et encore un café. Nous ne parlons pas. L'écrivain que je croyais être, du moins avant ma rencontre avec Hemingway à Paris, aurait qualifié le silence de confortable. Je me contente de remettre en route mon esprit engourdi en énumérant les sommets déjà illuminés, les parois et le pic nord de l'Everest lui-même, bien sûr, la cime enneigée de ce qui doit être le Kanchenjunga, très loin à l'est, le Cho Oyu à l'ouest, le Lhotse qui commence à accrocher le soleil au sud, La chaîne du Jiankar, plus distante, ombre intangible qui prend la solidité du granit sous les rayons du soleil. Et tout là-bas, nous observant au-dessus de la courbure visible de la Terre, un pic incroyablement haut du centre du Tibet. J'ignore son nom. Puis le diacre et Pasang arrivent, encore liés par 18 mètres de corde miracle. Reggie et moi échangeons un coup d'œil où la satisfaction le dispute à la culpabilité. À aucun moment nous ne nous sommes encordés pendant l'ascension d'hier, pas même lors de nos incursions sur la face nord ou lorsqu'on a dû escalader des goulottes en s'aidant de nos mains dans certains endroits abrupts. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce petit secret entre nous me fait autant plaisir.
« Il n'est pas encore 7 heures, »
dit Reggie.
« Quand donc êtes-vous parti ? Et d'où ?»
Le masque à oxygène de Pasang pend sur sa poitrine, comme chaque fois que je l'ai vu à travers les jumelles. Je doute qu'il soit à court d'air anglais, puisque j'aperçois le haut de 2 bonbonnes sortant de son sac à dos. Elles auraient dû largement suffire pour la montée depuis le col nord, même à fort débit. Et le docteur Pasang n'est pas du genre fanfaron. Peut-être est-il capable de grimper plus haut que nous sans avoir besoin d'oxygène. Le diacre, de son côté, a porté son masque jusqu'à leur arrivée sur notre dalle. Une fois assuré de son équilibre, il ferme la valve, retire son masque et reprend son souffle pendant un long moment avant de répondre à la question de Reggie.
« Parti juste après... 2 heures. Du camp 5. Arrivé là-bas hier après-midi. »
Voyant les lampes de mineurs gallois sur leurs bonnets de laine, sous les capuches de duvet, je ne peux m'empêcher de sourire. Entre les vêtements conçus par George Finch, les crampons et diverses autres inventions de J.C., la nouvelle corde et la logistique du diacre, et mon enthousiasme fringant, nous avons tous apporté quelque chose à cette 4e expédition dans l'Everest. Mais ce sont les lampes frontales de Lady Bromley-Montfort et son idée de commencer les ascensions au milieu de la nuit, avec ou sans pleine lune, qui ont sûrement fait la plus grande différence.
« Vous n'avez pas traîné, »
dit-elle. Elle déroule son sac de couchage au pied du diacre.
« Asseyez-vous, messieurs. Mais assurez-vous d'abord que les semelles de vos bottes soient bien accrochées à quelque chose. »
Pasang sourit et reste debout pour admirer la vue. Puis il se retourne vers la bande jaune, l'arête nord-est et la pyramide sommitale de l'Everest qui se dresse au-dessus de nous, à une proximité trompeuse. Le diacre retire son sac à dos avec un luxe de précaution. En 1922, nous a-t-il raconté un jour, Howard Somerville se trouvait à près de 8000 mètres quand il avait négligemment posé son sac pour le voir tomber sur le glacier 2500 mètres plus bas. Et le coince entre 2 petits blocs de roche derrière lui tout en s'asseyant. Aucun des 2 hommes n'a encore mis ses lunettes. Le diacre a la peau si brûlée par le soleil d'altitude que Pasang et lui pourraient passer pour des frères.
« On a avancé vite, » répond le diacre. Parce que des personnes très charitables ont fixé des centaines de mètres de cordes fixes dans les passages abrupts.
Il nous remercie d'un hochement de tête.
Les baguettes de bambou et leurs drapeaux rouges entre les goulottes était aussi une attention délicate.
C'était la moindre des choses, puisque nous passions par là,
dit Reggie avec un sourire chaleureux.
C'est bien que vous soyez monté un jour plus tôt, dit le diacre. Ça nous donne une journée supplémentaire pour fouiller la face nord.
« Nous n'allons pas fouiller toute la face nord, si ?»
demande Reggie. Elle ne peut tout de même pas être sérieuse. Le diacre esquisse un petit sourire et montre l'aval d'un geste. Je remarque que ses lèvres gercées saignent.
Selon le plan, nous allons imaginer un immense trapèze, partant de l'arête nord-est. Là où l'arête nord la rejoint, près du premier ressaut.
Il se retourne malaisément pour lever les yeux vers ce premier ressaut, dont seul le sommet est visible.
Mon Dieu, ça a l'air tout à fait possible d'ici, n'est-ce pas, Jake? Mais ce verdammt deuxième ressaut...
Reggie lui tend les jumelles, et le diacre examine le deuxième ressaut comme je l'ai fait un peu plus tôt.
Une escalade sur roc pas évidente, dit-il. Mais c'est pour ça qu'on vous a amené, Jake. C'est vous, notre expert rochassier.
Une escalade pas évidente, m'exclamai-je.
Je viens de passer une heure à observer ce foutu deuxième ressaut quand je n'admirais pas le lever du soleil. Et c'est exactement comme Norton ou je ne sais plus qui l'a décrit à la Royal Geographical Society. Oh, mon Dieu, la proue verticale de 30 mètres d'un putain de cuirassé qui sort du brouillard et s'avance droit sur vous.
Je prends quelques inspirations.
Je m'excuse pour le langage, Reggie.
Bon Dieu, vous faites bien,
répond-elle. Quoi qu'il en soit, reprend le diacre en retirant ses moufles et en ouvrant ses mains gantées vers les rochers en contrebas,
nous allons fouiller le trapèze que nous avons défini. C'est plus facile de le faire en descendant d'ici qu'en montant du camp 5.
Vous aurez l'énergie de mener les recherches aujourd'hui, tous les deux?
Demande Reggie. Passang sourit. Le diacre fait une légère grimace.
Il nous reste deux bouteilles d'oxygène, dit-il. Et vous?
Deux chacun.
Le diacre sort de son sac à dos la bouteille qu'il a vidée pendant l'ascension et débranche les tubes et les valves. Alors qu'il s'apprête à la poser entre les rochers, Reggie l'arrête.
Jack et moi avons fait une drôle de découverte quand nous avons jeté notre première bouteille hier soir,
dit-elle. Le diacre hausse légèrement les sourcils. Reggie lui prend le cylindre, le brandit à deux mains au-dessus de sa tête et le lance le plus loin possible. Il atterrit sur la pente environ 20 mètres plus bas, rebondit pour retomber sur du rocher à environ 20 mètres, puis continue de dévaler, éclat argenté dans la lumière du matin, tandis que les bruits de sa chute semblent résonner à l'infini. Le diacre secoue la tête mais sourit.
Je décline toute responsabilité si elle tombe sur un de nos amis Sherpas à 1 kilomètre sous le col nord, dit-il. À ce propos, il y a un apic sur la face, à un niveau légèrement inférieur à celui du camp 5. Pile en dessous de nous, qui descend jusqu'au grand couloir. Ce sera la limite inférieure de notre zone de recherche.
Je répète ce que j'ai dit,
répond doucement Reggie.
Ça fait tout de même des centaines d'hectares. D'hectares verticaux.
Pas complètement verticaux, dit le diacre. Dieu merci.
Il fouille dans les épaisseurs de vêtements sous sa parka en duvet et en sort une feuille pliée. Lorsqu'il la déplie, je vois qu'il s'agit d'une version plus détaillée et mise au propre d'un diagramme qu'il a dessiné et dont nous avons discuté pendant notre traversée du Tibet puis au camp de base. 4 lignes horizontales de couleurs différentes, zigzagent de gauche à droite puis de droite à gauche sur un croquis de la face nord de l'Everest, s'étendant grosso modo de l'épaule nord à l'est au grand couloir à l'ouest.
Lady Bromley Montfort, dit le diacre d'un ton cérémonieux. Puisque vous avez été notre alpiniste de tête jusqu'ici, auriez-vous l'obligeance de gravir encore 120 mètres
jusqu'au pied de la bande jaune, au-dessus de cette cuvette, et de chercher d'est en ouest le long de cette arête. Je ne crois pas que vous aurez à escalader dans les goulottes elles-mêmes. Les jumelles suffiront. Cette corniche, là, s'arrête juste avant le grand couloir, donc n'allez pas plus loin, s'il vous plaît. Le premier ressaut, sur l'arête au-dessus, peut vous servir de repère. Faites demi-tour avant de le dépasser trop loin vers l'ouest. Reggie hoche la tête, mais dit
« Vous ne me donnez pas le bas de la bande jaune parce que c'est le passage le plus large, le plus sûr et le plus facile à traverser, n'est-ce pas ?»«
Au contraire, » répond le diacre, l'air sérieux. « Je vous le donne parce qu'il promet la plus grande longueur de chute. » Et aussi, à présent son expression est plus espiègle que sérieuse, parce qu'il suppose de grimper alors que nous autres n'aurons qu'à descendre. Docteur Passang ?
Oui.
C'est le premier mot que je l'entends prononcer depuis leur arrivée. Il ne paraît pas plus essoufflé que si nous étions au niveau de la mer. Voudriez-vous bien descendre d'environ 200 mètres jusqu'à cette espèce de nervure de roche mal définie? Le diacre s'interrompt pour la montrer du doigt. La nervure en question est tellement mal définie qu'il nous faut plusieurs minutes pour la distinguer. Mais à mon avis, c'est l'arête horizontale sur laquelle Norton et Somerville sont revenus en quittant le grand couloir, le jour où Norton a établi le record d'altitude à 8717 mètres. Record connu, évidemment, puisque personne ne sait jusqu'où sont montés Mallory et Irvine avant de disparaître. Suivez-la, s'il vous plaît, vers l'ouest tant qu'elle reste solide. Puis descendez d'une centaine de mètres et choisissez la meilleure voie pour revenir vers l'arête nord à l'est, poursuit le diacre. Il lève les yeux vers le Sherpa. Vous avez brillamment effectué l'ascension sans oxygène ce matin, mais je vous conseillerais de prendre un peu d'air anglais pendant les recherches, uniquement pour vous aider à rester alerte.
Très bien, dit Passang.
Se protégeant les yeux, il regarde les dalles en forme de toit pentu qui constitueront sa large zone de recherche. Je vais prendre la partie située entre l'espèce de nervure du docteur Passang et le niveau du camp 5.
C'est une zone très vaste, Richard,
fait remarquer Reggie.
Et très abrupte, très exposée.
Et je ferai très attention, dit-il. N'oubliez pas de mettre vos lunettes, mes amis. Même si vous restez sur des rochers, n'oubliez pas. Le colonel Norton, dis-je. Exactement. Nous utiliserons une bouteille d'oxygène chacun en tentant de garder la deuxième en réserve pour ce soir. Mais nous devrions tous être de retour au camp 5 avant 14 heures. Aucun de nous, je crois, n'a pu se reposer correctement la nuit dernière. Et je veux éviter de nouveaux problèmes de santé si possible. Il me regarde. Votre toux empire, Jake. Je secoue la tête, agacé. Ça passera dès que je reprendrai de l'oxygène. Je sais que c'est faux. J'ai toujours la sensation d'avoir un os de poulet coincé dans la gorge. Mais je n'ai pas envie d'argumenter ni de me plaindre. Le diacre hoche la tête, manifestement peu convaincu, et ouvre son sac. J'ai quelque chose pour chacun de vous. Il sort ce qui ressemble à trois petits pistolets noirs à large canon.
Des pistolets de duel ?
Dit Reggie pour plaisanter. Je suis le seul à rire, ce qui me provoque une nouvelle quinte de toux.
J'ignorais qu'il existait des pistolets de détresse verrie de cette taille, dit Passang.
Le diacre nous montre les cartouches de couleur, guère plus grandes que des cartouches de fusil. Pistolets et munitions sont beaucoup plus petits que les modèles verrie à usage militaire et nautique que j'ai déjà vus. Le diacre avait noté le mot sur sa liste à Londres, sans que je sache pourquoi. Il l'avait aussi orthographié « Verey », un truc anglais manifestement, alors que je l'ai toujours vu écrit « Verey » du nom de l'inventeur des premiers pistolets de détresse. Le Mark III Wembley & Scott que j'avais à la guerre ressemblait à un tromblon, reprend le diacre. Gros canon en étain évasé, le genre de Verey de calibre 25-4 que vous avez sans doute vu, Jake. Mais un chercheur allemand a dessiné ces petits modèles de calibre 12 pour les patrouilles de nuit. Nous en avons récupéré quelques-uns. Il sort son gros pistolet Verey de fabrication anglaise de son sac pour nous montrer la différence. L'engin et ses cartouches sont au moins deux fois plus grands que les modèles allemands posés sur le rocher devant nous. Même à taille réduite, les pistolets de détresse en métal noir ont cette laideur fonctionnelle toute germanique. « Ça alors ?» dis-je, me sentant d'humeur sarcastique en cette belle matinée à 8200 mètres d'altitude. « L'armée vous a laissé repartir avec trois petits pistolets allemands et un gros Verey anglais. Quelle générosité !»« J'avoue que j'ai embarqué le gros, » répond le diacre. « Personne n'a songé à me le réclamer et je ne le leur ai pas rappelé. » C'était très fréquent pendant la démobilisation. Les petits sont pour vous. J'ai donné le sien à Jean-Claude hier. Je les ai achetés par correspondance à la compagnie Herma Erfurt avant qu'elle fasse faillite.
Comment ça marche ?
Demande Reggie. Elle a pris un pistolet et, preuve qu'elle a l'habitude de manier des armes à feu, l'a ouvert pour s'assurer qu'il n'était pas chargé. Elle attrape les petites cartouches de couleur posées sur la roche plate à côté de la main du diacre. Vous voyez, il y a trois couleurs de fusée. Rouge, vert et ce qu'on appelait étoile blanche pendant la guerre, dit-il sans adopter son ton professoral, je l'admets. Je suggère qu'on utilise le vert pour signaler aux autres qu'on a trouvé quelque chose. Le rouge en cas de problème et si on a besoin d'aide. Le blanc pour demander à tout le monde de retourner au camp 5. Donc, si je tombe dans le précipice, dis-je, me sentant encore un peu étourdi et oubliant complètement la sinistre raison de nos recherches, je dois tirer la cartouche rouge pendant ma chute. Les trois autres me regardent comme si j'avais perdu la tête. Par exemple, finit par répondre le diacre. C'est vous qui serez le plus bas, le plus près de la pique. Pendant un moment, nous sommes tous occupés à enfiler nos sacs à dos, ranger pistolets et munitions dans des poches extérieures de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles, mais à distance prudente des cylindres d'oxygène.
Pour en revenir à cette dernière zone de recherche,
dit Reggie lorsque nous sommes tous chargés et debout,
pensez-vous vraiment que Percival ait pu tomber si loin de l'arête nord-est ou de la face juste à l'écart de l'arête nord ?
Le diacre ne hausse pas les épaules, mais c'est tout comme. Une fois qu'un corps commence à tomber sur une pente aussi raide, Reggie, il a tendance à parcourir une grande distance. Si la chute a été causée par une avalanche, comme l'a prétendu Siegel, les corps de Percy et de Meyer auront pris de la vitesse verticale dès le début.
Dans ce cas, ils ne doivent probablement même plus être sur la face, dit Reggie.
Le diacre ne répond pas, mais c'est de toute façon inutile. La simple idée de ce brusque à pic à environ 600 mètres au-dessous de nous, promettant une chute verticale de plus de 2400 mètres, est terrifiante. Mais je ne crois pas que Bruno Siegel nous ait dit la vérité concernant la cause de la mort de votre cousin et de ce dénommé Meyer, déclare le diacre.
Si Percy et Meyer sont tombés de l'autre côté, du côté sud de l'arête nord-est,
commence Reggie. Nous ne les retrouverons pas, termine le diacre d'un ton platement catégorique. Il y a plus de 3500 mètres de pente jusqu'au glacier du Kangchung. Même si nous gravissons cette montagne, le long de l'arête nord-est, comme Mallory a dit vouloir le faire, il y aura très peu de raisons de regarder du côté sud. nous ne verrions rien de cette altitude, surtout après une année de chute de neige. Et il n'est pas question de s'approcher de la corniche de neige qui se sera inévitablement formée là-haut. Et moi, dis-je. Quoi, vous? Quels sont les paramètres de ma zone de recherche? Oh, dit le diacre, et il montre la ligne bleue tout en bas de la carte. Je vous ai attribué l'endroit le plus dangereux, Jake. Cette partie basse, juste au-dessus de la pique. À mon avis, vous n'aurez pas à aller beaucoup plus bas que le niveau du camp 5, pas jusqu'au bord du précipice lui-même. Puisqu'un corps qui aurait atterri là en tombant de l'arête nord-est serait en petits morceaux. Ou du moins terriblement mutilé. De la nourriture pour les goraks. Ces corbeaux qui volent même à cette altitude. Oh, je vous demande pardon, madame.
De quoi ? Demande Reggie.
D'être aussi bêtement insensible, répond le diacre. Il baisse la tête.
J'ai déjà vu des cadavres en montagne, monsieur Deacon, et je sais à quoi ressemble un corps humain après une longue chute. Je n'ignore pas non plus que des charognards auront attaqué celui de mon cousin et de Meyer s'ils sont encore quelque part sur la montagne.
Il n'empêche, dit le diacre, manquant encore de tact dans son effort maladroit pour atténuer la dureté de son commentaire. La face nord, à cette altitude, est un désert. Même après un an seulement, il devrait y avoir une forme de momification. Sentant que je dois orienter la conversation vers un sujet plus plaisant, je me tourne vers le Sherpa.
Docteur Passang, je suis surpris que vous ayez pu vous éloigner de vos patients pour faire cette escalade.
Comment va Tenzing Bhotia?
Il est mort, répond Passang. D'une embolie pulmonaire, un caillot de sang causé par l'altitude a bloqué la principale artère du poumon.
Je n'aurais rien pu faire, même si j'avais été dans la tente avec lui sur le col nord cette nuit-là. Il est mort pendant qu'on l'évacuait vers le camp de base.
Mon Dieu, dis-je dans un murmure.
Reggie est visiblement secouée.
Amen, dit-elle.